Au reste, le plus souvent, nous ne restions pas à la maison, nous allions nous promener. Parfois, avant d'aller s'habiller, Madame Swann se mettait au piano, ses belles mains sortant des manches roses ou blanches, souvent de couleurs très vives, de sa robe de chambre de crêpe de Chine, allongeaient leurs phalanges sur le piano, avec cette même mélancolie qui était dans ses yeux et n'était pas dans son cœur. Ce fut un de ces jours-là qu'il lui arriva de me jouer la partie de la sonate de Vinteuil, où se trouve la petite phrase que Swann avait tant aimée. Mais souvent on n'entend rien si c'est une musique un peu compliquée qu'on écoute pour la première fois. Et pourtant, quand plus tard on m'eut joué deux ou trois fois cette sonate, je me trouvais la connaître parfaitement. Aussi n'a-t-on pas tort de dire « entendre pour la première fois ». Si l'on avait vraiment, comme on l'a cru, rien distingué à la première audition, la deuxième, la troisième, seraient autant de premières, et il n'y aurait pas de raison pour qu'on comprît quelque chose de plus à la dixième. Probablement ce qui fait défaut la première fois, ce n'est pas la compréhension, mais la mémoire. Car la note, relativement à la complexité des impressions auxquelles elle a à faire face pendant que nous écoutons, est infime, aussi brève que la mémoire d'un homme qui, en dormant, pense mille choses qu'il oublie aussitôt, ou d'un homme tombé à moitié en enfance qui ne se rappelle pas la minute d'après ce qu'on vient de lui dire. Ces impressions multiples, la mémoire n'est pas capable de nous en fournir immédiatement le souvenir, mais celui-ci se forme en elle peu à peu, et à l'égard des œuvres qu'on a entendues deux ou trois fois, on est comme le collégien qui a relu à plusieurs reprises avant de s'endormir une leçon qu'il croyait ne pas savoir, et qui la récite par cœur le lendemain matin. Seulement je n'avais encore jusqu'à ce jour rien entendu de cette sonate, et là où Swann et sa femme voyaient une phrase distincte, celle-ci était aussi loin de ma perception claire qu'un nom qu'on cherche à se rappeler et à la place duquel on ne trouve que du néant. Un néant d'où une heure plus tard, sans qu'on y pense, s'élançant d'elle-même en un seul bond, les syllabes d'abord vainement sollicitées. Et non seulement on ne retient pas tout de suite les œuvres vraiment rares, mais même au sein de chacune de ces œuvres-là, et cela m'arriva pour la sonate de Vinteuil, ce sont les parties les moins précieuses qu'on perçoit d'abord. De sorte que je ne me trompais pas seulement en pensant que l'œuvre ne me réservait plus rien, ce qui fit que je restais longtemps sans chercher à l'entendre. Du moment que Madame Swann m'en avait joué la phrase la plus fameuse, j'étais aussi stupide en cela que ceux qui n'espèrent plus éprouver de surprise devant Saint-Marc de Venise, parce que la photographie leur a appris la forme de ces dômes. Mais bien plus, même quand j'eus écouté la sonate d'un bout à l'autre, elle me resta presque tout entière invisible, comme un monument dont la distance ou la brume ne laisse apercevoir que de faibles parties. De là la mélancolie qui s'attache à la connaissance de tels ouvrages, comme de tout ce qui se réalise dans le temps. Quand ce qui est le plus caché dans la sonate de Vinteuil se découvrit à moi, déjà entraîné par l'habitude hors des prises de ma sensibilité, ce que j'avais distingué, préféré tout d'abord, commençait à m'échapper, à me fuir. Pour n'avoir pu aimer qu'en des temps successifs tout ce que m'apportait cette sonate, je ne la possédais jamais tout entière. Elle ressemblait à la vie. Mais moins décevant que la vie, ces grands chefs-d'œuvre ne commencent pas par nous donner ce qu'ils ont de meilleur. Dans la sonate de Vinteuil, les beautés qu'on découvre le plus tôt sont aussi celles dont on se fatigue le plus vite, et pour la même raison sans doute, qui est qu'elle diffère moins de ce qu'on connaissait déjà. Mais quand celles-là se sont éloignées, il nous reste à aimer telle phrase que son ordre trop nouveau pour offrir à notre esprit rien que confusion nous avait rendu indiscernable et gardé intact. Alors, elle devant qui nous passions tous les jours sans le savoir et qui s'était réservée, qui pour le pouvoir de sa seule beauté était devenue invisible et restée inconnue, elle vient à nous la dernière, mais nous la quitterons aussi en dernier, et nous l'aimerons plus longtemps que les autres, parce que nous aurons mis plus longtemps à l'aimer. Ce temps du reste qu'il faut à un individu, comme il me le fallut à moi à l'égard de cette sonate, pour pénétrer une œuvre un peu profonde, n'est que le raccourci et comme le symbole des années, des siècles parfois, qui s'écoulent avant que le public puisse aimer un chef-d'œuvre vraiment nouveau. Aussi l'homme de génie, pour s'épargner les méconnaissances de la foule, se dit peut-être que les contemporains, manquant du recul nécessaire, les œuvres écrites pour la postérité ne devraient être lues que par elles, comme certaines peintures, qu'on juge mal de trop près. Mais en réalité, toute lâche précaution pour éviter les faux jugements est inutile, ils ne sont pas évitables. Ce qui est cause d'une œuvre de génie est difficilement admiré tout de suite, c'est que celui qui l'a écrite est extraordinaire, que peu de gens lui ressemblent. C'est son œuvre elle-même qui, en fécondant les rares esprits capables de la comprendre, les fera croître et multiplier. Ce sont les quatuors de Beethoven, les quatuors 12, 13, 14 et 15, qui ont mis 50 ans à faire naître, à grossir le public des quatuors de Beethoven, réalisant ainsi, comme tous les chefs-d'œuvre, un progrès sinon dans la valeur des artistes, du moins dans la société des esprits, largement composée aujourd'hui de ce qui était introuvable quand le chef-d'œuvre parut, c'est-à-dire d'être capable de l'aimer. Ce qu'on appelle la postérité, c'est la postérité de l'œuvre. Il faut que l'œuvre, en ne tenant pas compte, pour simplifier, des génies qui, à la même époque, peuvent parallèlement préparer pour l'avenir un public meilleur dont d'autres génies que lui bénéficieront, crée elle-même sa postérité. Si donc l'œuvre était tenue en réserve, n'était connue que de la postérité, celle-ci, pour cette œuvre, ne serait pas la postérité, mais une assemblée de contemporains, ayant simplement vécu 50 ans plus tard. Aussi faut-il que l'artiste, et c'est ce qu'avait fait Vinteuil, s'il veut que son œuvre puisse suivre sa route, la lance là où il y a assez de profondeur, en plein et lointain avenir. Et pourtant, ce temps à venir, vraie perspective des chefs-d'œuvre, si n'en pas tenir compte est l'erreur des mauvais juges, en tenir compte est parfois le dangereux scrupule des bons. Sans doute, il est aisé de s'imaginer, dans une illusion analogue à celle qui uniformise toute chose à l'horizon, que toutes les révolutions qui ont eu lieu jusqu'ici dans la peinture ou la musique respectaient tout de même certaines règles, et que ce qui est immédiatement devant nous, impressionnisme, recherche de la dissonance, emploi exclusif de la gamme chinoise, cubisme, futurisme, diffère outrageusement de ce qui a précédé. C'est que ce qui a précédé, on le considère sans tenir compte, qu'une longue assimilation l'a converti pour nous en une matière variée sans doute, mais somme toute homogène, où Hugo voisine avec Molière. Songeons seulement aux choquants disparates que nous présenterait, si nous ne tenions pas compte du temps à venir et des changements qu'il amène, tel horoscope de notre propre âge mûr tiré devant nous durant notre adolescence. Seulement tous les horoscopes ne sont pas vrais, et être obligé pour une œuvre d'art de faire entrer dans le total de sa beauté le facteur du temps mêle à notre jugement quelque chose d'aussi hasardeux et par là aussi dénué d'intérêt véritable que toute prophétie dont la non-réalisation n'impliquera nullement la médiocrité d'esprit du prophète, car ce qui appelle à l'existence les possibles ou les en exclut n'est pas forcément de la compétence du génie. On peut en avoir eu et ne pas avoir cru à l'avenir des chemins de fer, ni des avions, ou tout en étant grand psychologue, à la fausseté d'une maîtresse ou d'un ami, dont deux plus médiocres eussent prévu les trahisons. Si je ne compris pas la sonate, je fus ravi d'entendre jouer Madame Swann. Son toucher me paraissait comme son peignoir, comme le parfum de son escalier, comme ses manteaux, comme ses chrysanthèmes, faire partie d'un tout individuel et mystérieux, dans un monde infiniment supérieur à celui où la raison peut analyser le talent. N'est-ce pas que c'est beau, cette sonate de Vinteuil ? Me dit Swann. Le moment où il fait nuit sous les arbres, où les arpèges du violon font tomber la fraîcheur, avouez que c'est bien joli. Il y a là tout le côté statique du clair de lune, qui est le côté essentiel. Ce n'est pas extraordinaire qu'une cure de lumière comme celle que suit ma femme agisse sur les muscles, puisque le clair de lune empêche les feuilles de bouger. C'est cela qui est si bien peint dans cette petite phrase. C'est le bois de Boulogne tombé en catalepsie. Au bord de la mer, c'est encore plus frappant, parce qu'il y a les réponses faibles des vagues, que naturellement on entend très bien, puisque le reste ne peut pas remuer. À Paris, c'est le contraire. C'est tout au plus si on remarque ces lueurs insolites sur les monuments, ce ciel éclairé comme par un incendie sans couleur et sans danger, cette espèce d'immense fait divers deviné. Mais dans la petite phrase de Vinteuil, et du reste dans toute la sonate, ce n'est pas cela. Cela se passe au bois. Dans le groupetto, on entend distinctement la voix de quelqu'un qui dit « On pourrait presque lire son journal ». Ces paroles de Swann auraient pu fausser pour plus tard ma compréhension de la sonate, la musique étant trop peu exclusive pour écarter absolument ce qu'on nous suggère d'y trouver. Mais je compris par d'autres propos de lui que ces feuillages nocturnes étaient tout simplement ceux sous l'épaisseur desquels, dans maint restaurant des environs de Paris, il avait entendu bien des soirs la petite phrase. Au lieu du sens profond qu'il lui avait si souvent demandé, ce qu'elle rapportait à Swann, c'était des feuillages rangés, enroulés, peints autour d'elle, et qu'elle lui donnait désir de revoir parce qu'elle lui semblait leur être intérieure comme une âme. C'était tout un printemps dont il n'avait pas pu jouir autrefois, n'ayant pas, fiévreux et chagrin comme il était alors, assez de bien-être pour cela. Et que, comme on fait pour un malade des bonnes choses qu'il n'a pu manger, elle lui avait gardées. Les charmes que lui avaient fait éprouver certaines nuits dans le bois et sur lesquels la sonate de Vinteuil pouvait le renseigner, il n'aurait pu à leur sujet interroger Odette, qui pourtant l'accompagnait comme la petite phrase. Mais Odette était seulement à côté de lui alors, non en lui comme le motif de Vinteuil. Ne voyant donc point, Odette eût été mille fois plus compréhensive, ce qui, pour nul de nous, du moins j'ai cru longtemps que cette règle ne souffrait pas d'exception, ne peut s'extérioriser. « C'est au fond assez joli, n'est-ce pas, » dit Swann, « que le son puisse refléter comme l'eau, comme une glace ?» Et remarquez que la phrase de Vinteuil ne me montre que tout ce à quoi je ne faisais pas attention à cette époque. De mes soucis, de mes amours de ce temps-là, elle ne me rappelle plus rien, elle a fait l'échange. Charles, il me semble que ce n'est pas très aimable pour moi, tout ce que vous me dites là. Pas aimable ? Les femmes sont magnifiques. Je voulais dire simplement à ce jeune homme que ce que la musique montre, du moins à moi, ce n'est pas du tout la volonté en soi et la synthèse de l'infini, mais par exemple le pervers du Rhin, en redingote dans le palmarium du jardin d'acclimatation. Mille fois sans sortir de ce salon, cette petite phrase m'a emmené dîner à Armenonville avec elle. Mon Dieu, c'est toujours moins ennuyeux que d'y aller avec Madame de Cambremer. Madame Swann se mit à rire. C'est une dame qui passe pour avoir été très éprise de Charles. M'expliqua-t-elle, du même ton dont un peu avant, en parlant de Vermeer de Delphes, que j'avais été étonné de voir qu'elle connaissait, elle m'avait répondu « Dès que je vous dirai que monsieur s'occupait beaucoup de ce peintre-là au moment où il me faisait la cour, n'est-ce pas mon petit Charles ?»« Ne parlez pas à tort et à travers de Madame de Cambremer, » dit Swann, dans le fond très flatté. « Mais je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit. D'ailleurs, il paraît qu'elle est très intelligente. Je ne la connais pas. Je la crois très pushing, ce qui m'étonne d'une femme intelligente. Mais tout le monde dit qu'elle a été folle de vous. Cela n'a rien de froissant. » Swann garda un mutisme de sourd qui était une espèce de confirmation et une preuve de fatuité. « Puisque ce que je joue vous rappelle le jardin d'acclimatation, » reprit Madame Swann, en faisant par plaisanterie semblant d'être piquée, « nous pourrions le prendre tantôt comme but de promenade, si ça amuse ce petit. Il fait très beau, et vous retrouveriez vos chères impressions. » À propos du jardin d'acclimatation, vous savez, ce jeune homme croyait que nous aimions beaucoup une personne que je coupe au contraire aussi souvent que je peux, Madame Blatin. Je trouve très humiliant pour nous qu'elle passe pour notre amie. Pensez que le bon docteur Cottard, qui ne dit jamais de mal de personne, déclare lui-même qu'elle est infecte. Quelle horreur! Elle n'a pour elle que de ressembler tellement à Savonarole. C'est exactement le portrait de Savonarole par Fra Bartolomeo. Cette manie qu'avait Swann de trouver ainsi des ressemblances dans la peinture était défendable, car même ce que nous appelons l'expression individuelle, et comme on s'en rend compte avec tant de tristesse quand on aime et qu'on voudrait croire à la réalité unique de l'individu, quelque chose de général, et a pu se rencontrer à différentes époques. Mais si on avait écouté Swann, les cortèges des rois mages, déjà si anachroniques quand Benozzo Gozzoli y introduisit les Médicis, l'eussent été davantage encore, puisqu'ils eussent contenu les portraits d'une foule d'hommes, contemporains non de Gozzoli mais de Swann, c'est-à-dire postérieurs non plus seulement de 15 siècles à la nativité, mais de 4 au peintre lui-même. Il n'y avait pas, selon Swann, dans ces cortèges un seul Parisien de marque qui manqua, comme dans cet acte d'une pièce de Sardou, où par amitié pour l'auteur et la principale interprète, par mode aussi, toutes les notabilités parisiennes, de célèbres médecins, des hommes politiques, des avocats, vinrent pour s'amuser, chacun un soir, figurer sur la scène. Mais quel rapport a-t-elle avec le jardin d'acclimatation? Tous. Quoi, vous croyez qu'elle a un derrière bleu ciel comme les singes? Charles, vous êtes d'une inconvenance. Non, je pensais aux mots que lui a dit le Saint-Galais. Racontez-le-lui, c'est vraiment un beau mot. C'est idiot. Vous savez que Madame Blatin aime à interpeller tout le monde d'un air qu'elle croit aimable et qui est surtout protecteur. Ce que nos bons voisins de la Tamise appellent « patronizing », interrompit Odette. Elle est allée dernièrement au jardin d'acclimatation où il y a des Noirs, des Saint-Galais, je crois, dit ma femme, qui est beaucoup plus forte en ethnographie que moi. Allons, Charles, ne vous moquez pas. Mais je ne me moque nullement. Enfin, elle s'adresse à un de ces Noirs. « Bonjour, négro !» C'est un rien. En tout cas, ce qualificatif n'a pas plu aux Noirs. « Moi, négro, » dit-il avec colère à Madame Blatin, « mais toi, chameau !» Je trouve cela très drôle. J'adore cette histoire. N'est-ce pas que c'est beau? On voit bien la mère Blatin. « Moi, négro, mais toi, chameau. » Je manifestais un extrême désir d'aller voir ces Saint-Galais, dont l'un avait appelé Madame Blatin chameau. Il ne m'intéressait pas du tout, mais je pensais que pour aller au jardin d'acclimatation et en revenir, nous traverserions cette allée des acacias où j'avais tant admiré Madame Swann, et que peut-être le mulâtre, ami de Coquelin, à qui je n'avais jamais pu me montrer saluant Madame Swann, me verrait assis à côté d'elle au fond d'une Victoria. Pendant ces minutes où Gilbert parti se préparer n'était pas dans le salon avec nous, monsieur et madame Swann se plaisaient à me découvrir les rares vertus de leur fille. Et tout ce que j'observais semblait prouver qu'ils disaient vrai, je remarquai que, comme sa mère me l'avait raconté, elle avait non seulement pour ses amis, mais pour les domestiques, pour les pauvres, des attentions délicates, longuement méditées, un désir de faire plaisir, une peur de mécontenter, se traduisant par de petites choses qui souvent lui donnaient beaucoup de mal. Elle avait fait un ouvrage pour notre marchande des Champs-Élysées et sortie par la neige pour le lui remettre elle-même et sans un jour de retard. Vous n'avez pas idée de ce qu'est son cœur, car elle le cache, disait son père. Si jeune, elle avait l'air bien plus raisonnable que ses parents. Quand Swann parlait des grandes relations de sa femme, Gilberte détournait la tête et se taisait, mais sans air de blâme, car son père ne lui paraissait pas pouvoir être l'objet de la plus légère critique. Un jour que je lui avais parlé de Mademoiselle Vinteuil, elle me dit « Jamais je ne la connaîtrai, pour une raison. » C'est qu'elle n'était pas gentille pour son père. À ce qu'on dit, elle lui faisait de la peine. Vous ne pouvez pas plus comprendre cela que moi, n'est-ce pas? Vous qui ne pourriez sans doute pas plus survivre à votre papa que moi au mien. Ce qui est du reste naturel. Comment oublier jamais quelqu'un qu'on aime depuis toujours? Et une fois qu'elle était plus particulièrement câline avec Swann, comme je lui fis remarquer quand il fut loin. « Oui, pauvre papa, c'est ces jours-ci l'anniversaire de la mort de son père. Vous pouvez comprendre ce qu'il doit éprouver. Vous comprenez cela, vous? Nous sentons de même sur ces choses-là. Alors je tâche d'être moins méchante que d'habitude. Mais il ne vous trouve pas méchante, il vous trouve parfaite. » Pauvre papa, c'est parce qu'il est trop bon. Ses parents ne me firent pas seulement l'éloge des vertus de Gilberte, cette même Gilberte qui, même avant que je l'eusse jamais vue, m'apparaissait devant une église, dans un paysage de l'île de France, et qui ensuite, m'évoquant non plus mes rêves, mais mes souvenirs, était toujours devant la haie d'épines roses, dans le raidillon que je prenais pour aller du côté de mes églises. Comme j'avais demandé à Madame Swann, en m'efforçant de prendre le ton indifférent d'un ami de la famille, curieux des préférences d'une enfant, quels étaient parmi les camarades de Gilberte ceux qu'elle aimait le mieux, Madame Swann me répondit « Mais vous devez être plus avancé que moi dans ces confidences. » Vous qui êtes le grand favori, le grand crack, comme disent les Anglais. Sans doute dans ces coïncidences tellement parfaites, quand la réalité se replie et s'applique sur ce que nous avons longtemps rêvé, elle nous le cache entièrement, se confond avec lui comme deux figures égales et superposées, qui n'en font plus qu'une, alors qu'au contraire, pour donner à notre joie toute sa signification, nous voudrions garder à tous ces points de notre désir, dans le moment même où nous y touchons, et pour être plus certain que ce soit bien eux, le prestige d'être intangible. Et la pensée ne peut même pas reconstituer l'état ancien pour le confronter au nouveau, car elle n'a plus le champ libre. La connaissance que nous avons faite, le souvenir des premières minutes inespérées, les propos que nous avons entendus sont là qui obstruent l'entrée de notre conscience et commandent beaucoup plus les issues de notre mémoire que celles de notre imagination. Ils rétroagissent davantage sur notre passé, que nous ne sommes plus maîtres de voir sans tenir compte d'eux, que sur la forme restée libre de notre avenir. J'avais pu croire pendant des années qu'aller chez Madame Swann était une vague chimère que je n'atteindrais jamais. Après avoir passé un quart d'heure chez elle, c'est le temps où je ne la connaissais pas qui était devenu chimérique et vague, comme impossible que la réalisation d'un autre possible a anéanti. Comment aurais-je encore pu rêver de la salle à manger comme d'un lieu inconcevable quand je ne pouvais pas faire un mouvement dans mon esprit sans y rencontrer les rayons infrangibles qu'émettait à l'infini derrière lui jusque dans mon passé le plus ancien, le homard à l'américaine que je venais de manger? Et Swann avait dû voir, pour ce qui le concernait lui-même, se produire quelque chose d'analogue, car cet appartement où il me recevait pouvait être considéré comme le lieu où étaient venus se confondre et coïncider non pas seulement l'appartement idéal que mon imagination avait engendré, mais un autre encore, celui que l'amour jaloux de Swann, aussi inventif que mes rêves, lui avait si souvent décrit. Cet appartement commun à Odette et à lui, qui lui était apparu si inaccessible, tel soir où Odette l'avait ramené avec Forcheville prendre de l'orangeade chez elle, et ce qui était venu s'absorber pour lui dans le plan de la salle à manger où nous déjeunions, c'était ce paradis inespéré, où jadis il ne pouvait sans trouble imaginer qu'il aurait dit à leur maître d'hôtel ces mêmes mots « Madame est-elle prête ?» que je lui entendais prononcer maintenant avec une légère impatience mêlée de quelque satisfaction d'amour-propre. Pas plus que ne le pouvait sans doute Swann, je n'arrivais à connaître mon bonheur. Et quand Gilberte elle-même s'écriait « Qu'est-ce qui vous aurait dit que la petite fille que vous regardiez sans lui parler jouer au bar serait votre grande amie chez qui vous iriez tous les jours ? Où cela vous plairait ?» Elle parlait d'un changement que j'étais bien obligé de constater du dehors, mais que je ne possédais pas intérieurement, car il se composait de deux états que je ne pouvais, sans qu'ils cessassent d'être distincts l'un de l'autre, réussir à penser à la fois. Et pourtant cet appartement, parce qu'il avait été si passionnément désiré par la volonté de Swann, devait conserver pour lui quelque douceur, si j'en jugeais par moi, pour qui il n'avait pas perdu tout mystère. Ce charme singulier dans lequel j'avais pendant si longtemps supposé que baignait la vie des Swann, je ne l'avais pas entièrement chassé de leur maison en y pénétrant. Je l'avais fait reculer, dompté qu'il était par cet étranger, ce paria que j'avais été et à qui Mademoiselle Swann avançait maintenant gracieusement pour qu'il y prît place, un fauteuil délicieux, hostile et scandalisé. Mais tout autour de moi, ce charme, dans mon souvenir, je le perçois encore. Est-ce parce que ces jours où Monsieur et Madame Swann m'invitaient à déjeuner, pour sortir ensuite avec eux et Gilberte, j'imprimais avec mon regard, pendant que j'attendais seul, sur le tapis, sur les bergères, sur les consoles, sur les paravents, sur les tableaux, l'idée gravée en moi que Madame Swann ou son mari ou Gilberte allaient entrer. Est-ce parce que ces choses ont vécu depuis dans ma mémoire à côté des Swann et ont fini par prendre quelque chose d'eux ? Est-ce que, sachant qu'ils passaient leur existence au milieu d'elles, je faisais de toutes comme les emblèmes de leur vie particulière, de leurs habitudes, dont j'avais été trop longtemps exclu, pour qu'elles ne continuassent pas à me sembler étrangères, même quand on me fit la faveur de m'y mêler? Toujours est-il que chaque fois que je pense à ce salon que Swann, sans que cette critique impliquât de sa part l'intention de contrarier en rien les goûts de sa femme, trouvait si disparate, parce que tout conçu qu'il était encore dans le goût moitié serre, moitié atelier qui était celui de l'appartement où il avait connu Odette, elle avait pourtant commencé à remplacer dans ce fouillis nombre des objets chinois qu'elle trouvait maintenant un peu toc, bien à côté, par une foule de petits meubles tendus de vieilles soies Louis XIV, sans compter les chefs-d'œuvre apportés par Swann de l'hôtel du Quai d'Orléans. Il a, au contraire, dans mon souvenir, ce salon composite, une cohésion, une unité, un charme individuel que n'ont jamais même les ensembles les plus intacts que le passé nous a légués, ni les plus vivants, où se marque l'empreinte d'une personne. Car nous seuls pouvons, par la croyance qu'elles ont une existence à elles, donner à certaines choses que nous voyons une âme qu'elles gardent ensuite et qu'elles développent en nous. Toutes les idées que je m'étais faites, des heures différentes de celles qui existent pour les autres hommes, que passaient les Swann dans cet appartement qui était pour le temps quotidien de leur vie ce que le corps est pour l'âme, et qui devait en exprimer la singularité, toutes ces idées étaient réparties, amalgamées, partout également troublantes et indéfinissables, dans la place des meubles, dans l'épaisseur des tapis, dans l'orientation des fenêtres, dans le service des domestiques. Quand après le déjeuner nous allions au soleil prendre le café dans la grande baie du salon, tandis que Madame Swann me demandait combien je voulais de morceaux de sucre dans mon café, ce n'était pas seulement le tabouret de soie qu'elle poussait vers moi qui dégageait, avec le charme douloureux que j'avais perçu autrefois, sous l'épine rose, puis à côté du massif de laurier, dans le nom de Gilberte, l'hostilité que m'avaient témoigné ses parents et que ce petit meuble semblait avoir si bien su et partagé, que je ne me sentais pas digne et que je me trouvais un peu lâche d'imposer mes pieds à son capitonnage sans défense. Une âme personnelle le reliait secrètement à la lumière de 2 heures de l'après-midi, différente de ce qu'elle était partout ailleurs dans le golfe, où elle faisait jouer à nos pieds ses flots d'or, parmi lesquels les canapés bleuâtres et les vaporeuses tapisseries émergeaient comme des îles enchantées. Et il n'était pas jusqu'au tableau de Rubens accroché au-dessus de la cheminée, qui ne possédât lui aussi le même genre et presque la même puissance de charme que les bottines à lacets de M. Swann et ce manteau à pèlerine, dont j'avais tant désiré porter le pareil, et que maintenant Odette demandait à son mari de remplacer par un autre, pour être plus élégant quand je leur faisais l'honneur de sortir avec eux. Elle allait s'habiller elle aussi, bien que j'eusse protesté qu'aucune robe de ville ne vaudrait à beaucoup près la merveilleuse robe de chambre de crêpe de Chine ou de soie, vieux rose, cerise, rose tiepolo, blanche, mauve, verte, rouge, jaune, unie ou à dessin, dans laquelle Madame Swann avait déjeuné et qu'elle allait ôter. Quand je disais qu'elle aurait dû sortir ainsi, elle riait par moquerie de mon ignorance ou plaisir de mon compliment. Elle s'excusait de posséder tant de peignoirs, parce qu'elle prétendait qu'il n'y avait que là-dedans qu'elle se sentait bien, et elle nous quittait pour aller mettre une de ces toilettes souveraines qui s'imposaient à tous, et entre lesquelles pourtant j'étais parfois appelé à choisir celle que je préférais qu'elle revêtît. Au jardin d'acclimatation que j'étais fier quand nous étions descendus de voiture, de m'avancer à côté de Madame Swann. Tandis que dans sa démarche nonchalante, elle laissait flotter son manteau, je jetais sur elle des regards d'admiration, auxquels elle répondait coquettement par un long sourire. Maintenant, si nous rencontrions l'un ou l'autre des camarades, filles ou garçons, de Gilberte, qui nous saluait de loin, j'étais à mon tour regardé par eux comme un de ces êtres que j'avais enviés, un de ces amis de Gilberte qui connaissait sa famille et était mêlé à l'autre partie de sa vie, celle qui ne se passait pas aux Champs-Élysées. Souvent, dans les allées du bois ou du jardin d'acclimatation, nous croisions, nous étions salués par telle ou telle grande dame, amie de Swann, qu'il lui arrivait de ne pas voir et que lui signalait sa femme. « Charles, vous ne voyez pas Madame de Montmorency ?» Et Swann, avec le sourire amical dû à une longue familiarité, se découvrait pourtant largement avec une élégance qui n'était qu'à lui. Quelquefois la dame s'arrêtait, heureuse de faire à Madame Swann une politesse qui ne tirait pas à conséquence, et de laquelle on savait qu'elle ne chercherait pas à profiter ensuite, tant Swann l'avait habituée à rester sur la réserve. Elle n'en avait pas moins pris toutes les manières du monde, et si élégante et noble de port que fût la dame, Madame Swann l'égalait toujours en cela. Arrêtée un moment auprès de l'ami que son mari venait de rencontrer, elle nous présentait avec tant d'aisance, Gilbert et moi, gardait tant de liberté et de calme dans son amabilité, qu'il eût été difficile de dire, de la femme de Swann ou de l'aristocratique passante, laquelle des deux était la grande dame. Le jour où nous étions allés voir les Cingalais, comme nous revenions, nous aperçûmes, venant dans notre direction et suivis de deux autres qui semblaient l'escorter, une dame âgée mais encore belle, enveloppée dans un manteau sombre et coiffée d'une petite capote attachée sous le cou par deux brides. « Ah, voilà quelqu'un qui va vous intéresser, » me dit Swann. La vieille dame, maintenant à trois pas de nous, souriait avec une douceur caressante. Swann se découvrit. Madame Swann s'abaissa en une révérence et voulut baiser la main de la dame, pareil à un portrait de Winterhalter, qui la releva et l'embrassa. « Voyons, voulez-vous mettre votre chapeau, vous ? » dit-elle à Swann, d'une grosse voix un peu maussade, en amie familière. « Je vais vous présenter à son Altesse impériale, » me dit Madame Swann. Swann m'attira un moment à l'écart pendant que Madame Swann causait du beau temps et des animaux nouvellement arrivés au jardin d'acclimatation avec l'Altesse. « C'est la princesse Mathilde, » me dit-il. « Vous savez, l'ami de Flaubert, de Sainte-Beuve, de Dumas. Songez, c'est la nièce de Napoléon Ier. » Elle a été demandée en mariage par Napoléon III et par l'empereur de Russie. Ce n'est pas intéressant? Parlez-lui un peu, mais je voudrais qu'elle ne nous fît pas rester une heure sur nos jambes. J'ai rencontré Ten, qui m'a dit que la princesse était brouillée avec lui, dit Swann. Il s'est conduit comme un cochon, dit-elle d'une voix rude et en prononçant le mot comme si ça avait été le nom de l'évêque contemporain de Jeanne d'Arc. Après l'article qu'il a écrit sur l'empereur, je lui ai laissé une carte avec PPC. J'éprouvais la surprise qu'on a en ouvrant la correspondance de la duchesse d'Orléans, née princesse palatine. Et en effet, la princesse Mathilde, animée de sentiments si français, les éprouvait avec une honnête rudesse, comme en avait l'Allemagne d'autrefois, et qu'elle avait hérité sans doute, de sa mère wurtembergeoise. Sa franchise un peu fruste et presque masculine, elle l'adoucissait dès qu'elle souriait de langueur italienne. Et le tout était enveloppé dans une toilette tellement Second Empire que bien que la princesse la portât seulement sans doute par attachement aux modes qu'elle avait aimées, elle semblait avoir eu l'intention de ne pas commettre une faute de couleur historique et de répondre à l'attente de ceux qui attendaient d'elle l'évocation d'une autre époque. Je soufflai à Swann de lui demander si elle avait connu Musset. « Très peu, monsieur. » répondit-elle d'un air qui faisait semblant d'être fâchée, et en effet c'était par plaisanterie qu'elle disait monsieur à Swann, étant fort intime avec lui. Je l'ai eu une fois à dîner. Je l'avais invité pour 7 heures. À 7 heures et demie, comme il n'était pas là, nous nous mîmes à table. Il arrive à 8 heures, me salue, s'assied, ne desserre pas les dents, part après le dîner sans que j'aie entendu le son de sa voix. Il était ivre-mort. Cela ne m'a pas beaucoup encouragé à recommencer. Nous étions un peu à l'écart, Swann et moi. J'espère que cette petite séance ne va pas se prolonger, me dit-il. J'ai mal à la plante des pieds. Aussi, je ne sais pas pourquoi, ma femme alimente la conversation. Après cela, c'est elle qui se plaindra d'être fatiguée, et moi je ne peux plus supporter ces stations debout. Madame Swann, en effet, qui tenait au renseignement de Madame Bontemps, était en train de dire à la princesse que le gouvernement, comprenant enfin sa goujaterie, avait décidé de lui envoyer une invitation pour assister dans les tribunes à la visite que le tsar Nicolas devait faire le surlendemain aux Invalides. Mais la princesse, qui malgré les apparences, malgré le genre de son entourage, composé surtout d'artistes et d'hommes de lettres, était restée au fond, et chaque fois qu'elle avait à agir, nièce de Napoléon. « Oui, madame, je l'ai reçue ce matin, et je l'ai renvoyée au ministre qui doit la voir à l'heure qu'il est. Je lui ai dit que je n'avais pas besoin d'invitation pour aller aux Invalides. Si le gouvernement désire que j'y aille, ce ne sera pas dans une tribune, mais dans notre caveau où est le tombeau de l'empereur. Je n'ai pas besoin de carte pour cela, j'ai mes clés. J'entre comme je veux. Le gouvernement n'a qu'à me faire savoir s'il désire que je vienne ou non, mais si j'y vais, ce sera là ou pas du tout. » À ce moment, nous fûmes salués, Madame Swann et moi, par un jeune homme qui lui dit bonjour sans s'arrêter et que je ne savais pas qu'elle connût, Bloch. Sur une question que je lui posais, Madame Swann me dit qu'il lui avait été présenté par Madame Bontemps, qu'il était attaché au cabinet du ministre, ce que j'ignorais. Du reste, elle ne devait pas l'avoir vu souvent, ou bien elle n'avait pas voulu citer le nom, pouvait peut-être par elle un peu chic de Bloch, car elle dit qu'il s'appelait Monsieur Morel. Je lui assurais qu'elle confondait, qu'il s'appelait Bloch. La princesse redressa une traîne qui se déroulait derrière elle et que Madame Swann regardait avec admiration. « C'est justement une fourrure que l'empereur de Russie m'avait envoyée, » dit la princesse, « et comme j'ai été le voir tantôt, je l'ai mise pour lui montrer que cela avait pu s'arranger en manteau. » Il paraît que le prince Louis s'est engagé dans l'armée russe. La princesse va être désolée de ne plus l'avoir près d'elle, dit Madame Swann, qui ne voyait pas les signes d'impatience de son mari. Il avait bien besoin de cela. Comme je lui ai dit, ce n'est pas une raison parce que tu as eu un militaire dans ta famille, répondit la princesse, faisant avec cette brusque simplicité allusion à Napoléon Ier. Swann ne tenait plus en place. « Madame, c'est moi qui vais faire l'altesse et vous demander la permission de prendre congé. Mais ma femme a été très souffrante et je ne veux pas qu'elle reste davantage immobile. » Madame Swann refit la révérence et la princesse eut pour nous tous un divin sourire qu'elle sembla amener du passé, des grâces de sa jeunesse, des soirées de Compiègne, et qui coula intact et doux sur le visage tout à l'heure grognon. Puis elle s'éloigna, suivie des deux dames d'honneur, qui n'avaient fait, à la façon d'interprète, de bonne d'enfant ou de garde-malade, que ponctuer notre conversation de phrases insignifiantes et d'explications inutiles. « Vous devriez aller écrire votre nom chez elle un jour de cette semaine, » me dit Madame Swann. « On ne corne pas de Bristol à toutes ces royalties, comme disent les Anglais. » Mais elle vous invitera si vous vous faites inscrire. Parfois, dans ces derniers jours d'hiver, nous entrions avant d'aller nous promener dans quelqu'une des petites expositions qui s'ouvraient alors, et où Swann, collectionneur de marques, était salué avec une particulière déférence par les marchands de tableaux chez qui elles avaient lieu. et par ces temps encore froids, mes anciens désirs de partir pour le Midi et Venise étaient réveillés par ces salles où un printemps déjà avancé et un soleil ardent mettaient des reflets violacés sur les alpilles roses et donnaient la transparence foncée de l'émeraude au Grand Canal. S'il faisait mauvais, nous allions au concert ou au théâtre et goûter ensuite dans un thé. Dès que Madame Swann voulait me dire quelque chose qu'elle désirait que les personnes des tables voisines ou même les garçons qui servaient ne comprissent pas, elle me le disait en anglais, comme si c'eût été un langage connu de nous deux seulement. Or, tout le monde savait l'anglais, moi seul je ne l'avais pas encore appris, et étais obligé de le dire à Madame Swann pour qu'elle cessât de faire sur les personnes qui buvaient le thé ou sur celles qui l'apportaient, des réflexions que je devinais désobligeantes, sans que j'en comprisse, ni que l'individu visé en perdît, un seul mot. Une fois, à propos d'une matinée théâtrale, Gilberte me causa un étonnement profond. C'était justement le jour dont elle m'avait parlé d'avance et où tombait l'anniversaire de la mort de son grand-père. Nous devions, elle et moi, aller entendre avec son institutrice les fragments d'un opéra, et Gilberte s'était habillée dans l'intention de se rendre à cette exécution musicale, gardant l'air d'indifférence qu'elle avait l'habitude de montrer pour la chose que nous devions faire, disant que ce pouvait être n'importe quoi, pourvu que cela me plût et fût agréable à ses parents. Avant le déjeuner, sa mère nous prit à part pour lui dire que cela ennuyait son père de nous voir aller au concert ce jour-là. Je trouvais que c'était trop naturel. Gilberte resta impassible, mais devint pâle d'une colère qu'elle ne put cacher et ne dit plus un mot. Quand M. Swann revint, sa femme l'emmena à l'autre bout du salon et lui parla à l'oreille. Il appela Gilberte et la prit à part dans la pièce à côté. On entendit des éclats de voix. Je ne pouvais cependant pas croire que Gilberte, si soumise, si tendre, si sage, résista à la demande de son père, un jour pareil et pour une cause si insignifiante. Enfin, Swann sortit en lui disant « Tu sais ce que je t'ai dit, maintenant fais ce que tu voudras ». La figure de Gilberte resta contractée pendant tout le déjeuner, après lequel nous allâmes dans sa chambre. Puis tout d'un coup, sans une hésitation et comme si elle n'en avait eu à aucun moment, « 2 heures !» s'écria-t-elle. « Mais vous savez que le concert commence à 2h30 !» Et elle dit à son institutrice de se dépêcher. « Mais, lui dis-je, est-ce que cela n'ennuie pas votre père ?»« Pas le moins du monde !» Cependant, il avait peur que cela ne semble bizarre à cause de cet anniversaire. Qu'est-ce que cela peut me faire ce que les autres pensent? Je trouve ça grotesque de s'occuper des autres dans les choses de sentiment. On s'en pour soi, pas pour le public. Mademoiselle, qui a peu de distraction, se fait une fête d'aller à ce concert. Je ne vais pas l'en priver pour faire plaisir au public. Elle prit son chapeau. « Mais Gilberte, lui dis-je, en lui prenant le bras, ce n'est pas pour faire plaisir au public, c'est pour faire plaisir à votre père. Vous n'allez pas me faire d'observation, j'espère, » me cria-t-elle d'une voix dure et en se dégageant vivement. Faveur plus précieuse encore que de m'emmener avec eux au jardin d'acclimatation ou au concert, les Swann ne m'excluaient même pas de leur amitié avec Bergotte, laquelle avait été à l'origine du charme que je leur avais trouvé quand, avant même de connaître Gilberte, je pensais que son intimité avec le divin vieillard eût fait d'elle pour moi la plus passionnante des amies. Si le dédain que je devais lui inspirer ne m'eût pas interdit l'espoir qu'elle m'emmena jamais avec lui visiter les villes qu'il aimait. Or, un jour, Madame Swann m'invita à un grand déjeuner. Je ne savais pas quels devaient être les convives. En arrivant, je fus dans le vestibule déconcerté par un incident qui m'intimida. Madame Swann manquait rarement d'adopter les usages qui passent pour élégants pendant une saison et ne parvenant pas à se maintenir, sont bientôt abandonnés. Comme beaucoup d'années auparavant, elle avait eu son « handsome cab » ou faisait imprimer sur une invitation à déjeuner que c'était « to meet » un personnage plus ou moins important. Souvent, ces usages n'avaient rien de mystérieux et n'exigeaient pas d'initiation. C'est ainsi que, mince innovation de ces années-là, et importée d'Angleterre, Odette avait fait faire à son mari des cartes où le nom de Charles Swann était précédé de « Mister ». Après la première visite que je lui avais faite, Madame Swann avait corné chez moi un de ses cartons, comme elle disait. Jamais personne ne m'avait déposé de carte. Je ressentis tant de fierté, d'émotion, de reconnaissance, que réunissant tout ce que je possédais d'argent, je commandai une superbe corbeille de camélias et l'envoyai à Madame Swann. Je suppliai mon père d'aller mettre une carte chez elle, mais de s'en faire vite graver d'abord, où son nom fut précédé de « Mister ». Il n'obéit à aucune de mes deux prières, j'en fus désespéré pendant quelques jours, et me demandai ensuite s'il n'avait pas eu raison. Mais l'usage de « Mister », s'il était inutile, était clair. Il n'en était pas ainsi d'un autre qui, le jour de ce déjeuner, me fut révélé, mais non pourvu de sa signification. Au moment où j'allais passer de l'antichambre dans le salon, le maître d'hôtel me remit une enveloppe, mince et longue, sur laquelle mon nom était écrit. Dans ma surprise, je le remerciai, cependant je regardai l'enveloppe. Je ne savais pas plus ce que j'en devais faire qu'un étranger d'un de ces petits instruments que l'on donne aux convives dans les dîners chinois. Je vis qu'elle était fermée, je craignis d'être indiscret en l'ouvrant tout de suite, et je la mis dans ma poche d'un air entendu. Madame Swann m'avait écrit, quelques jours auparavant, de venir déjeuner en petit comité. Il y avait pourtant 16 personnes, parmi lesquelles j'ignorais absolument que se trouvait Bergotte. Madame Swann, qui venait de me nommer, comme elle disait, à plusieurs d'entre elles, tout à coup, à la suite de mon nom, de la même façon qu'elle venait de le dire, et comme si nous étions seulement deux invités du déjeuner qui devaient être chacun également contents de connaître l'autre, prononça le nom du doux chantre aux cheveux blancs. Ce nom de Bergotte me fit tressauter comme le bruit d'un revolver qu'on aurait déchargé sur moi, mais instinctivement, pour faire bonne contenance, je saluai. Devant moi, comme ces prestidigitateurs qu'on aperçoit intacts et en redingote dans la poussière d'un coup de feu d'où s'envole une colombe, mon salut m'était rendu par un homme jeune, rude, petit, râblé et myope, à nez rouge en forme de coquille de colimaçon, et à barbiche noire. J'étais mortellement triste, car ce qui venait d'être réduit en poudre, ce n'était pas seulement le langoureux vieillard dont il ne restait plus rien, c'était aussi la beauté d'une œuvre immense que j'avais pu loger dans l'organisme défaillant et sacré que j'avais, comme un temple, construit expressément pour elle, mais à laquelle aucune place n'était réservée dans le corps trapu, rempli de vaisseaux, d'os, de ganglions, du petit homme à nez camu et à barbiche noire qui était devant moi. Tout le Bergotte que j'avais lentement et délicatement élaboré moi-même, goutte à goutte, comme une stalactite, avec la transparente beauté de ses livres, ce Bergotte-là se trouvait d'un seul coup ne plus pouvoir être d'aucun usage, du moment qu'il fallait conserver le nez en colimaçon et utiliser la barbiche noire. Comme n'est plus bonne à rien la solution que nous avions trouvée pour un problème dont nous avions lu incomplètement la donnée et sans tenir compte que le total devait faire un certain chiffre. Le nez et la barbiche étaient des éléments aussi inéluctables et d'autant plus gênants que, me forçant à réédifier entièrement le personnage de Bergotte, il semblait encore impliquer, produire, sécréter incessamment un certain genre d'esprit actif et satisfait de soi. ce qui n'était pas de jeu, car cet esprit-là n'avait rien à voir avec la sorte d'intelligence répandue dans ses livres, si bien connue de moi, et que pénétrait une douce et divine sagesse. En partant d'eux, je ne serais jamais arrivé à ce nez en colimaçon. Mais en partant de ce nez, qui n'avait pas l'air de s'en inquiéter, faisait cavalier seul et fantaisie, j'allais dans une toute autre direction que l'œuvre de Bergotte. J'aboutirais, semblait-il, à quelque mentalité d'ingénieur pressé, de la sorte de ceux qui, quand on les salue, croient comme il faut de dire « Merci et vous ?» avant qu'on leur ait demandé de leurs nouvelles. Et si on leur déclare qu'on a été enchanté de faire leur connaissance, répondent par une abréviation qu'ils se figurent bien portée, intelligente et moderne, en ce qu'elle évite de perdre en de vaines formules un temps précieux, également. Sans doute les noms sont des dessinateurs fantaisistes, nous donnant des gens et des pays des croquis si peu ressemblants que nous éprouvons souvent une sorte de stupeur quand nous avons devant nous, au lieu du monde imaginé, le monde visible, qui d'ailleurs n'est pas le monde vrai, nos sens ne possédant pas beaucoup plus le don de la ressemblance que l'imagination. Si bien que les dessins, enfin approximatifs qu'on peut obtenir de la réalité, sont au moins aussi différents du monde vu que celui-ci l'était du monde imaginé. Mais pour Bergotte, la gêne du nom préalable n'était rien auprès de celle que me causait l'œuvre connue, à laquelle j'étais obligé d'attacher, comme après un ballon, l'homme à barbiche, sans savoir si elle garderait la force de s'élever. Il semblait bien pourtant que ce fût lui qui eût écrit les livres que j'avais tant aimés, car Madame Swann, ayant cru devoir lui dire mon goût pour l'un d'eux, il ne montra nul étonnement qu'elle en eût fait part à lui, plutôt qu'à un autre convive, et ne sembla pas voir là l'effet d'une méprise, mais en plissant la redingote qu'il avait mise en l'honneur de tous ses invités, d'un corps avide du déjeuner prochain, ayant son attention occupée d'autres réalités importantes, ce ne fut que comme un épisode révolu de sa vie antérieure, et comme si on avait fait allusion à un costume du duc de Guise, qui l'eût mis une certaine année à un bal costumé, qu'il sourit en se reportant à l'idée de ses livres, lesquels aussitôt déclinèrent pour moi, entraînant dans leur chute toute la valeur du beau, de l'univers, de la vie, jusqu'à n'avoir été que quelques médiocres divertissements d'hommes à barbiche. Je me disais qu'il avait dû s'y appliquer, mais que s'il avait vécu dans une île entourée par des bancs d'huîtres perlières, il se fut à la place livré avec succès au commerce des perles. Son œuvre ne me semblait plus aussi inévitable, et alors je me demandais si l'originalité prouve vraiment que les grands écrivains soient des dieux régnant chacun dans un royaume qui n'est qu'à lui, ou bien s'il n'y a pas dans tout cela un peu de feinte, si les différences entre les œuvres ne seraient pas le résultat du travail, plutôt que l'expression d'une différence radicale des sens entre les diverses personnalités.